Merci au groupe Louange de nous avoir entraînés dans cette louange pour notre Seigneur, cette louange qui fait toujours du bien, qui réchauffe les cœurs. Peut-être vous avez lu sur le mémo que la prédication avec pour titre « La paille, la poutre, comment y voir clair ?» C'est clair que si j'ai la poutre dans mon œil, je vois rien. Même avec une paille, c'était dérangeant, une petite poussière aussi, c'est pas agréable. Enfin, René Monod avait la lourde tâche de nous parler de cela et le Seigneur l'a très bien inspiré, j'en suis sûr. Et comme introduction à cela, j'aimerais lire dans Luc, au chapitre 6, à partir du verset 36. « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Et là, ça y va pas par le dos de la cuillère. Il nous dit, « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Voilà, René. Priez pour mon frère René. Dieu notre Père, merci pour ce moment que nous allons passer à l'écoute de ta parole. Je te demande vraiment de bénir René, lui donner les paroles d'à propos, tout ce que tu as préparé et que tu as mis sur son cœur. Seigneur, merci parce que ce matin, nous voulons être à ton écoute, non seulement écouter, mais aussi mettre en pratique. Seigneur, nous avons besoin de toi chaque jour, chaque instant. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen.
Merci Claude pour cette lecture qui est un bon complément à la lecture dans Matthieu. J'ai d'abord reçu comme sujet de méditation de ce matin les 5 premiers versets du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors que dans ton œil, il y a une poutre. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. J'ai donc reçu ces 5 versets du début du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, puis, quelque temps après, la générosité de notre pasteur Nicolas Michel y a ajouté le verset 6. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. Dans un premier temps, l'adjonction de ce verset 6 m'a paru compliquer singulièrement les choses. En effet, traiter certains de chiens ou de porcs apparaît être un jugement, ce qu'interdit les versets précédents. Comment comprendre alors cette contradiction ? Même, je remercie Nicolas qui m'a beaucoup aidé dans ma préparation, et j'ai aussi beaucoup apprécié deux livres de Pierre Bonnard, son exégèse sur l'Évangile selon Matthieu, et de John Stott, son livre sur le Sermon sur la montagne, que je vous recommande. Il est difficile de succéder aux prédications précédentes, tant elles étaient excellentes, et bien des choses que je vais dire ont déjà été dites. Mais pour commencer, il me semble utile de resituer le texte de ce matin. Le sermon sur la montagne, on l'avait entendu, s'adresse aux disciples de Jésus. Ce dernier les prend à l'écart et les enseigne. C'est donc à la communauté des disciples, jusqu'à aujourd'hui, qu'est adressé ce discours inaugural du ministère de Jésus. Par contraste, la loi de Moïse et ses 10 commandements était destinée à tout le peuple. C'était un ensemble de limites pour garantir la vie sociale et être aussi un témoignage aux autres peuples d'une possibilité nouvelle de vivre ensemble, conduit par Dieu. On pense souvent les 10 commandements comme une parole autoritaire et très menaçante. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Mais c'est oublier la première parole qui introduit les commandements. Oh là là, voilà. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Dans Deutéronome 5, verset 6. C'est-à-dire, je suis ton sauveur qui t'aime. Donc, si tu réalises à quel point je t'aime, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ta vie a une grande valeur, donc celle de ton voisin aussi, donc tu ne tueras pas. Le ton est tout différent, vous remarquez. Et l'amour de Dieu pour son peuple et pour chacune et chacun imprègne déjà tout le décalogue. C'est un ensemble de règles qui permettent une vie harmonieuse. La venue de Jésus, envoyé et fils de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui se manifeste dans la société des humains. On l'a vu, c'est un royaume à venir, mais qui est déjà présent. Et les disciples de Jésus sont invités à le vivre et à l'annoncer. Le sermon sur la montagne en présente les lignes de force, en quelque sorte la charte. Et Jésus reprend les thèmes du décalogue pour dire sa vision personnelle à leur sujet. En tout cas, 6 fois, il est dit « Vous avez entendu qu'il a été dit », suit une citation du décalogue, « Mais moi je vous dis ». Liliane Mélan et Marc-André Dubat nous en ont donné plusieurs exemples ces dimanches passés. Alors, la relation que Jésus introduit entre lui et ses disciples est beaucoup plus intime que les relations prescrites dans le décalogue. Ça, c'est très important. Le sermon sur la montagne décrit ces relations entre membres du royaume de Dieu. C'est le peuple que Dieu déclare heureux parce qu'ils sont pauvres en eux-mêmes et mendiants de l'esprit, parce qu'ils sont dans la tristesse, mais que Dieu les consolera. Heureux parce qu'ils sont doux. Affamés et assoiffés de justice, etc. Le fondement de cette charte du royaume, c'est les béatitudes. Les disciples de Jésus constituent une nouvelle société dans la société des hommes, un prototype de la société du royaume. On l'a vu, la loi de Moïse établissait la valeur de la vie de chaque individu puisqu'elle disait « tu ne tueras pas ». Dans le sermon sur la montagne, la valeur de la vie de chacun est bien plus grande encore, puisqu'il suffit de dire à autrui « fou » ou « imbécile » pour être passible de l'enfer. La loi de Moïse disait « tu ne commettras pas d'adultère ». Le sermon sur la montagne dénonce le moindre regard où l'autre est un objet de désir. C'est dire la valeur de cette personne, c'est dire la valeur de chacune de nos personnes. Mais Jésus n'est pas naïf et il n'envisage pas que la communauté de ses disciples soit parfaite ici-bas. Il sait qu'il y aura des écarts et des manquements. C'est la manière d'aborder les difficultés relationnelles entre ses disciples qui fait l'objet des versets de ce matin. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé, car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera, et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors que dans ton œil il y a une poutre. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On remarque d'emblée que c'est un langage très parlant, très imagé, mais aussi très fortement exagéré. C'est une manière très courante de parler dans la culture du Moyen-Orient, manière dite hyperbolique de s'exprimer. En effet, parler de poutre dans l'œil, même d'une brindille, est très exagéré. C'est comme lorsque nous disons « tu te mets le doigt dans l'œil » pour dire « tu vois tout à fait mal la situation ». On a tous fait l'expérience qu'une toute petite poussière nous bloque complètement la vue. Mais le contraste est très parlant entre un petit objet, la paille, et un gros objet, la poutre. Ne pas juger est tout autre chose qu'un précepte de bon voisinage dans notre société matérialiste. Je ne te juge pas, tu ne me juges pas, tout va bien ainsi, chacun pour soi. Non, le mot « juger » dans ces versets est très fort. Il a la signification de « condamner ». Et il fait référence au jugement final que Dieu exercera lui seul à la fin des temps. Donc, juger, c'est prendre la place de Dieu, qui seul est juge. Dieu seul a le droit et l'autorité de juger. Juger autrui pour la paille qu'il a dans l'œil, c'est, sans s'en rendre compte, comme le disent ces versets, avoir une poutre dans son propre œil. Juger autrui pour la paille qu'il a dans l'œil, c'est sans s'en rendre compte, avoir une poutre dans son œil. c'est se préparer soi-même à être jugé selon les mêmes critères. Et c'est se préparer à être dans le box des accusés. Juger, c'est se placer hors de la grâce et du pardon. L'esprit de jugement aveugle sur sa propre situation. Cela rappelle la parabole que l'on trouve dans Matthieu 18 et que je vais lire maintenant. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, c'est-à-dire des millions de francs. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent, 100 francs. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois ». Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon et comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Je crois que nous sommes chacun dans la situation du serviteur à qui il a été effacé une énorme dette. Et pourtant, moi je suis si prompt à juger, à rejeter, à condamner, à cause de l'appartenance politique ou sociale, à cause du style de vie qui me dérange, à cause de l'origine géographique de l'autre, à cause de la couleur de sa peau ou de sa religion, ou à cause de tel ou tel événement qui m'a choqué. J'ai l'impression que l'on a tous plus ou moins tendance à coller des étiquettes, comme disait Marc-André Dubat dimanche passé. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la colle et l'encre que j'ai sur mes étiquettes que je place sont d'une incroyable qualité. L'autre est enfermé derrière l'étiquette que je lui ai mise il y a parfois des années. Il est figé dans cet état. John Stott écrit « Jésus condamne notre disposition à critiquer. Exercer des facultés critiques, c'est discerner, mais non pas censurer. La disposition à critiquer est un péché aux multiples facettes déplaisantes. Celui qui se plaît à critiquer voit le mal partout. Il a une attitude négative qui cherche à briser les autres. Il prend plaisir à dénicher les points faibles et les défaillances des autres. Pire encore, critiquer, c'est s'ériger en censeur, prétendant avoir compétence et autorité pour juger le prochain. Dans son épître aux Romains, Paul reprend cet enseignement en disant « Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son propre maître. » Et John Stott conclut « Être disposé à la critique, c'est faire preuve d'arrogance et usurper la prérogative de Dieu qui se réserve pour lui-même le droit de juger les hommes au dernier jour. » Nous l'avons clairement entendu. Dans les dernières prédications, Jésus veut tout autre chose de notre part que la culture des critiques et des condamnations. Il l'a dit au début de son discours, « Heureux les miséricordieux, heureux les doux, heureux ceux qui œuvrent pour la paix. » Le maître attendait de celui à qui il a remis une énorme dette qu'il efface la petite dette que son prochain avait envers lui. Et dans Éphésiens 4, au verset 32, nous lisons « Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et John Stott ajoute « Jésus ne veut pas faire des chrétiens des aveugles, mais des personnes généreuses. Il ne s'attend pas à ce qu'il renonce à toute faculté critique, mais qu'il ne se laisse pas aller à l'ambition présomptueuse d'être Dieu. » Reprenons notre texte. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou bien comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors que dans ton œil, il y a une poutre ? Avoir une écharde dans l'œil fait très mal. On l'a tous expérimenté. Il est donc juste, bon et nécessaire d'aider son frère à s'en débarrasser. Jésus ne veut pas des relations médiocres entre les membres de sa communauté, mais plutôt d'un esprit d'entraide et de développement mutuel. Cependant, il faut au minimum que chacun s'applique à soi-même les exigences demandées à l'autre. Au minimum, que chacun s'applique à soi-même les exigences demandées à l'autre. On a tendance à voir chez l'autre des reproches que l'on peut très souvent se faire à soi-même. C'est ainsi une manière facile de se justifier soi-même sur le dos de l'autre. Et il faut encore, pour terminer, essayer de comprendre ce célèbre verset 6, « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les cochons de peur qu'ils ne les piétinent et se retournent contre vous pour vous lacérer. » On est très surpris par la violence des termes que Jésus emploie et surtout à la suite de ce que l'on vient lire concernant les relations fraternelles. Les chiens dont il est question ici n'ont rien à voir avec les belles bêtes proprettes de Jacqueline Lecoultre et Helen Fielding. Il s'agit de chiens errants, sales et se nourrissant d'ordures, comme on peut en voir dans les pays pauvres. Et les porcs sont, pour la loi juive, des animaux impurs. Les perles font penser à la perle de grand prix de la parabole de Matthieu 13. Le royaume des cieux est comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. La perle représente donc l'évangile. Alors est-ce que Jésus interdirait d'annoncer la bonne nouvelle du royaume ? Certainement pas. Ce serait en contradiction avec tant d'invitations à proclamer l'évangile. Mais il faut garder le lien avec les versets qui précèdent. Si les disciples du Christ n'ont pas à s'ériger en juge, ils ne sont pas non plus des naïfs sans discernement. Il ne leur est pas demandé d'ignorer les fautes des autres, comme si tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il est hélas des situations où il est déplacé d'annoncer l'évangile lorsque tout indique qu'il sera méprisé, rejeté et n'entraînera que le blasphème. Ce verset 6 est donc une invitation au bon sens. Le livre des Actes des apôtres nous montre que l'apôtre Paul a toujours persévéré à annoncer la bonne nouvelle d'abord à ses frères juifs avant de l'annoncer aux païens comme à Antioche de Pisidie. Et là on lit, le sabbat venu, presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur. À la vue de cette foule, les juifs furent pris de fureur et c'était des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. Paul et Barnabas eurent alors la hardiesse de déclarer « C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens. » À Corinthe, les Juifs s'opposèrent aussi à Paul, à l'injurière. À Corinthe, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant devant les Juifs que le Messie, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur déclara « Que votre sang vous retombe sur la tête. J'en suis pur et désormais c'est vers les païens que j'irai. » Il y a des situations douloureuses où temporairement il vaut mieux s'abstenir de parler. Si règne le mépris tenace vis-à-vis de l'Évangile, ne provoquons pas le blasphème. Ayons la même patience que Dieu, qui, heureusement, a plus d'un tour dans son sac pour changer les situations et débloquer les attitudes. Le mal n'aura pas le dernier mot. Alors pour conclure, relisons ces versets de l'Épître aux Éphésiens. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Imitez Dieu puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Amen.